Les sept vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical Marc Evéa et Clément Péfer. C'est une émission produite par atoutboutdechamp.com.
La vie c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri. Il faut vous l'arracher, la vie.
Olivier Ninge, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre « La vie, c'est comme une dent » de Boris Vian pour introduire cette nouvelle émission sur les sept vies de Serge Reggiani. Je rappelle que passionné par la chanson française, vous participez depuis plusieurs années à des spectacles musicaux en tant qu'acteur-chanteur.
Oui, tout à fait. Et j'ai eu le plaisir de créer un spectacle musical qui nous intéresse particulièrement ici, intitulé « Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante ».
Alors pour les auditeurs qui veulent en savoir plus sur ce spectacle et écouter les émissions précédentes, je leur conseille d'aller sur le site www.atoutboutdechamp.com. Olivier Ninge, je vous propose de continuer l'exploration des sept vies de Serge Reggiani.
Bien volontiers, mais commençons par un petit rappel de ce que nous avons dit jusque-là. Donc Serge est né en Italie, où ses parents sont tous les deux coiffeurs, et donc sa première vie fut celle d'un enfant italien. Ensuite, pour fuir le fascisme de Mussolini, il quitte l'Italie pour la France à l'âge de 8 ans, et donc sa deuxième vie est celle d'un émigrant dans les années 1930, confronté à la xénophobie.
Finalement, la famille Reggiani ne restera pas très longtemps en Normandie.
Non, ils vont tous les trois à Paris où Ferruccio, le père de Serge, ouvre un salon de coiffure au Faubourg Saint-Denis. Et à l'âge de 14 ans, Serge quitte l'école pour faire un apprentissage dans la coiffure.
Donc sa troisième vie est celle d'apprenti coiffeur.
Oui, et il se rend compte très vite que devenir coiffeur n'est pas sa vocation. Alors, il prend goût au théâtre et décide de se former au métier de comédien. Il obtient deux premiers prix d'interprétation et s'inscrit au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.
Et donc, quatrième vie, celle de comédien couronné de succès.
Oui, tout à fait. Et en 1940, c'est la guerre, l'occupation. Alors, il doit survivre en trouvant des petits boulots, des petits rôles. Et en 1943, Léo Johannon va lui proposer son premier grand rôle au cinéma dans Le Carrefour des enfants perdus.
Si je comprends bien, il commence sa cinquième vie pour devenir l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français.
Oui, et il fait coup double car sur le tournage, il rencontre sa première femme, la comédienne Jeannine Darcet, qu'il épousera et ils auront deux enfants, Stéphane et Karine.
Mais Olivier Ninge, qu'en est-il de la vie professionnelle après la libération?
Sa quatrième vie de comédien et sa cinquième vie d'acteur de cinéma vont s'entremêler. Côté théâtre, il va interpréter Les Justes de Camus, et puis Les Séquestrés d'Altona de Jean-Paul Sartre. Et côté cinéma, il va jouer dans le célèbre Casque d'or de Becker avec Simone Signoret, et puis il va jouer aussi dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville ou encore dans Le Guépard réalisé par Luchino Visconti.
Que des noms prestigieux. Et qu'en est-il de sa vie de famille?
Alors là, c'est plus compliqué. Il divorce de Jeannine en 1955, puis épouse Annie Noël en 1957, qui donne naissance à Célia en 1958. Là, Serge achète une maison au soleil dans les Alpes-Maritimes. C'est dans ce havre de paix que vont naître le frère et la sœur de Célia, Simon et Maria. Puis, nous arrivons à la période où il va faire son entrée dans le monde de la chanson française.
Nous abordons donc sa sixième vie, celle de chanteur. Ça peut paraître surprenant. Pourquoi et comment ce comédien, cet acteur, en est venu à la chanson?
Le premier surpris a été Serge lui-même. C'est une chose à laquelle il ne s'attendait pas. D'ailleurs, les gens de son entourage lui déconseillaient de chanter. Peut-être parce qu'il était comédien. Alors qu'au fond, il y a de grandes similitudes entre chanter et jouer la comédie. Pour Serge, c'était le prolongement de son métier et la chanson nourrissait son expérience de comédien. Il disait « En fait, je chante depuis toujours. Je suis méditerranéen. J'aime les gens qui chantent dans la rue. Alors j'ai voulu chanter malgré les opposants. » Il disait « Quand vous avez envie de ça, si vous aimez ça, si vous trouvez que c'est beau, alors faites-le. Car si vous êtes sincère, ça passe. »
Belle leçon, qui exprime bien son côté indépendant, un tantinet rebelle.
Ben oui, et rappelez-vous, il y a aussi l'influence de sa mère qui fredonnait toute la journée les grands airs d'opéra. « Tu as formé par ce concert permanent mon oreille d'enfant », dit-il dans sa lettre à Letizia, que vous trouverez dans son livre « Dernier courrier avant la nuit ».
Mais concrètement, après 15 pièces de théâtre et plus de 40 films à son actif à 43 ans, comment a-t-il fait pour se lancer dans la chanson ?
Il y a eu un premier événement fortuit. Mmh. Un jour, dans une émission de radio dans laquelle il jouait un rôle important, le chanteur fait défaut au dernier moment. Bah donc Serge le remplace au pied levé, sans qu'on sache que c'était lui qui chantait. Seulement, un grand monsieur, Jacques Canetti, a entendu cette émission, s'est renseigné, et il a su que le faux chanteur en question, c'était Serge Reggiani.
Oui, je vois Jacques Canetti, c'est lui qui a lancé, je crois, Jacques Brel, Georges Brassens, Guy Béard, Marcel Mounoudji, Serge Gainsbourg.
Eh oui, et un soir où Serge mangeait chez ses amis Simone et Yves Montand, il y avait justement Jacques Canetti qui était là, ce découvreur de talent. Là. Il lui dit « Monsieur Reggiani, je vous vois parfaitement chanter du Boris Vian, vous qui l'avez connu. » Serge a dû lui répondre un vague « Pourquoi pas ?» sans croire un seul instant qu'il donnerait suite. Et pourtant, dès le lendemain, Jacques Canetti le rappelle et là, c'est l'engrenage.
L'engrenage, c'est-à-dire
ben, Serge sort en 1965 son premier album avec 12 chansons de Boris Vian. Mmh. D'ailleurs, la plupart des titres sont peu connus, exception faite du Déserteur et peut-être Je bois, thème qui touchait Serge très 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 près. Enfin, en pleine période yéyé, c'est quand même un succès, hein, un succès très encourageant pour un interprète débutant dans la chanson. Et ce premier album obtient une superbe reconnaissance, le prix Charles Cros.
De toute évidence, cette nouvelle aventure marque un tournant décisif dans la carrière de Serge Reggiani.
Oui, mais il faut savoir qu'au début, nous retrouvons le côté perfectionniste de Serge. De la même manière qu'il n'était pas content de son jeu de comédien dans Les Justes d'Albert Camus, il n'est pas satisfait du résultat de ce premier album. Dans une interview, il dira « Dans ce disque, j'ai pas été bon ». D'ailleurs, à l'occasion d'une TV, j'ai chanté deux choses, ce n'était pas très bon. J'ai failli raccrocher.
Et pourtant, cet album rencontre un franc succès et la façon dont il revisite les textes de Boris Vian est remarquable. Pour moi, ce qui frappe dans son interprétation, c'est la retenue.
Oui, pourtant, Serge est insatisfait. Et c'est encore pire concernant sa prestation sur scène. Il est paralysé par le trac. Par exemple, en première partie de Catherine Sauvage, il est si pétrifié par la peur qu'il doit sortir de scène au bout de deux chansons. Dans la même interview, il dira « Je sens qu'en scène, je suis encore coincé par un tas de conventions. Si je m'aperçois que je ne peux pas éclater dans la chanson, alors même si j'ai eu du succès, pour moi ce sera un échec. Alors salut, au revoir et ailleurs. »
Mais qu'est-ce qui fait qu'il a persévéré ?
Ben, c'est grâce à une belle dame brune. Une des rares qui l'ait soutenue, c'est Barbara. Séduite par son album de chansons de Boris Vian et flairant le potentiel de ce prodigieux interprète, elle lui propose de faire la première partie de son tour de chant. Et malgré ses réticences, elle le force quasiment à monter sur scène. Mais au préalable, elle l'aide. Elle lui apprend à respirer avec l'abdomen, à placer sa voix. Elle lui propose des musiciens pour l'accompagner, notamment Jos Barcelli, l'accordéoniste de Patachou. Et pour les textes, dans un premier temps, elle va lui présenter Georges Moustaki. Ah, la rencontre du Rital et du Métèque, c'est un grand moment. Ça a tout de suite fonctionné entre les deux hommes. En fait, La première chanson que Georges a écrite pour Serge, c'est Sarah.
Je vous propose d'en écouter une version tirée de votre spectacle. Hommage à Serge Reggiani, un comédien qui chante.
Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, monsieur, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure, que déesse famine, à part un soir d'hiver, contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les yeux cernés par les années, par les amours, au jour le jour, la bouche usée par les baisers, trop souvent mais trop mal donnés, le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps, les seins si lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât, le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé, le dos voûté semble porter des souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes lorsque la nuit nous réunit. Son corps, ses mains s'offrent au mien, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure.
Très beau texte en effet. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent en savoir plus sur votre spectacle en allant sur le site www.atoutbouttdechant en minuscule et tout attaché, chant.com.
Alors, l'histoire de la naissance de cette chanson est très intéressante.
Je sens que vous allez nous la raconter.
Eh oui, Serge voulait un texte racontant les amours d'un homme avec une femme plus très jeune. Au début, Georges Moustaki n'était pas très motivé par l'idée. Lui, il était à un moment de sa vie où il était dans échange une de 40 contre deux de 20. Alors, il a vraiment hésité. Bah, ça ne l'inspirait pas. Puis, il s'est souvenu de son histoire avec Piaf.
Édith Piaf.
Oui, et il est resté quand même près de 2 ans avec elle. Il dira par la suite qu'il a eu de très nombreuses et de très belles aventures amoureuses. Mais celle qui l'a marqué le plus, c'est son amour pour Édith Piaf.
Olivier Ninge, merci. Nous arrivons à la fin de cette 8e émission sur les 7 vies de Serge Reggiani. Alors, dites-nous en quelques mots ce que vous allez aborder dans la prochaine émission.
Ben, je vais continuer à raconter sa 6e vie, celle d'un comédien qui chante. Mmh. À très bientôt sur cette antenne.
À bientôt. C'était les 7 vies de Serge Reggiani par Olivier Ninge. Accompagnement musical, Marc Evea et Clément Péfer. C'était une émission produite par atoutbouttdechant.com.